Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Galère. Vous écoutez Écoforum, l'émission sur l'écologie et la solidarité de votre radio préférée. Vous pouvez partager votre opinion et vos questions en direct en appelant le 04 91 08 28 10. L'émission est diffusée en direct ce soir jusqu'à 20h et sera rediffusée demain de 9h à 10h sur cette même antenne. Ce soir, je suis en compagnie de Victor Hugo Espinoza, ingénieur civil, chevalier de l'ordre numérique et surtout fondateur de l'association L'Air et Moi et du réseau Écoforum qui chapeaute cette émission de radio. Récemment élu du 15e et 16e arrondissement, il est tout juste sorti d'une conférence de presse. Il a une annonce à nous faire ce soir. Bonsoir, Monsieur Victor Hugo.
Bonsoir.
Il est venu accompagné de sa famille et notamment de son fils, Monsieur Jean-Paul et Madame Maria, qui sont venus directement de Copenhague pour partager leur opinion de Marseillais sur leur ville et sur leur vie à l'étranger.
Oui, surtout que c'est très intéressant de commencer à comparer un peu la ville écologique à Marseille, la ville écologique à Copenhague.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Jean-Paul. Donc, je reviens sur monsieur Victor Hugo Espinoza, parce que vous êtes, pour l'écologie marseillaise, le super-héros caché qui crée un groupe de réflexion et un centre de ressources sur le thème de l'environnement au sens large. Vous l'appelez Écoforum. Monsieur Victor Hugo, qui êtes-vous, d'où venez-vous et quelles sont les ambitions que vous portez pour l'environnement de Marseille ?
Bon, déjà, je viens de loin, avec mon accent. Je suis d'origine chilienne. Je viens de la dictature de Pinochet. Et depuis qu'il est arrivé en France en 1978, je m'occupe beaucoup, beaucoup de tous les problèmes écologiques. C'est ainsi qu'on est à peu près à 3600 articles de presse. On est à plus de 2000 émissions de radio. Imaginez-vous, aujourd'hui on fait une. On est à 2000 émissions de radio. À plus de 1000 animations des écoles, collèges, lycées. Donc nous, on est dans l'action tout le temps. Et presque 90% de tout ce temps, c'est le temps bénévolat.
C'est très ambitieux, merci. Qu'est-ce que c'est Écoforum ?
Écoforum, c'est... Bon, on était très actifs. Avant, on avait tout un réseau, on était 150 associations. Aujourd'hui, on a resté plutôt un soutien de le faire savoir. Vous savez, quand une association a un problème, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va les aider, soit par la radio, soit grâce à toi, que tu vas recevoir beaucoup de monde. On va faire savoir la problématique et on va les aider à communiquer au niveau médiatique et aussi à mettre en réseau des associations pour que ce soit plus fort.
Et justement, d'où vient cette idée d'émission de radio ?
L'idée d'émission de radio, c'est venu très tôt parce que déjà avec ma femme, on faisait une émission sur l'Amérique latine au début, après une émission sur le rire. Et après, quand il y a la radio libre qui a été créée, et on était au début, c'est pour ça que j'ai dit que Sidi, que je le connais depuis longtemps, on se connaît depuis le début quand la radio s'est libérée. Et donc, j'ai dit, il y a une place à prendre, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris la place et à un moment venu, je faisais une émission à Radio Galère, Radio Dialogue, Radio Grenouille et Radio Gazelle. On avait 4 émissions, mais c'était trop difficile à faire. On sait très bien qu'aujourd'hui, une émission de radio comme celle-ci, on avait Florence avant, 2 ans, c'est du lourd quand même. Et j'espère que toi, tu vas résister mieux que Florence à plus de 2 ans.
J'espère aussi. Mais justement, quel sera le rôle pendant les prochaines années à venir de cette émission de radio et par rapport aussi à la nouvelle équipe municipale ?
Et le rôle numéro 1, c'est écouter les associations qui demandent des changements. Vous savez qu'on n'est pas là pour servir la soupe de la gauche, ni de la droite, ni du centre. On est là pour que les gens qui souffrent, ou les écologistes, associations écologistes qui ont des problèmes liés à l'écologie, liés à la propreté, liés au transport, liés à la pollution de l'air, que ces gens-là soient écoutés. C'est pour ça que quand je t'ai dit que tu devais faire cette émission, tu avais toute la liberté de les gérer au mieux possible.
D'accord, ben merci beaucoup pour cette opportunité. Donc avant de continuer sur vos parcours et sur vos engagements, j'aimerais juste me tourner vers Jean-Paul.
Oui, bonsoir.
Ben, Jean-Paul, tu as voyagé avec ta famille de Copenhague jusqu'à ici, et tu retrouves Marseille après plusieurs années d'absence. Quelles sont tes observations?
Disons, je reviens tous les ans, mais c'est vrai que dernièrement, là, aujourd'hui, en venant à l'émission, on a pris la voiture pour du sud de Marseille. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que ça commence à... Il y a beaucoup de changements déjà. Dernièrement, j'ai vu des vélos en ville, alors que je n'avais jamais vu de vélos. J'ai dû faire attention à des vélos, alors que avant, c'est rien comparé à Copenhague, parce qu'à Copenhague, il y a 700 000 vélos, alors qu'il y a 1 million d'habitants. Mais c'est vrai que ça m'a étonné, parce que je me suis dit, oh, tiens, c'est bizarre, ça, je n'avais pas vu. Et puis je vois que, par exemple, on est passé par le cours Lyoto. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est tout petit le cours Lyoto maintenant. Et en fait, ils ont fait les trottoirs un peu plus larges. Je sens qu'il y a j'ai remarqué des changements.
Donc Marseille s'approche de Copenhague au fur et à mesure
des
années ?
On en sera loin. Après, il y a beaucoup de choses. J'ai réfléchi à pas mal de choses. Évidemment, Copenhague, c'est très plat. Donc à la base, la culture a été basée sur que en fait, le vélo, c'est facile. Qu'on fasse 5 km ou 2 km, c'est tellement plat qu'en fait, c'est pas très fatigant de faire du vélo. Après, j'imagine que si on va par exemple, le cours Lyoto à la plage, le retour en vélo, c'est pas... Il y a des montées, des descentes, je pense que ça peut être un peu plus difficile. C'est pas le premier réflexe qu'on a. C'est pas aussi facile, disons.
Les défendeurs de la cause du vélo en ville vous répondront que à Copenhague, ils n'ont pas 300 jours de vélo par 300 jours de soleil par an.
C'est vrai, mais en fait, au Danemark, justement, ils disent qu'en fait, il n'y a pas de mauvais temps, il faut juste s'habiller en conséquence. Donc après, moi, je ne suis pas d'accord, parce que pour la pluie, mais s'il pleut, ils se mettent un truc pour la pluie, s'il neige, ils mettent une grosse veste. En fait, c'est presque mal vu de ne pas prendre son vélo. Des fois, si on prend le bus, ils se disent, non mais attends, pourquoi tu n'as pas pris ton vélo? Ouais, mais il pleuvait, oh, ça va, mais un imperméable.
Donc c'est 700 000 vélos pour 1 million d'habitants ou 700 000 cyclistes pour 1 million d'habitants?
Moi, j'avais l'impression qu'il y avait 1 million de cyclistes pour 1 million d'habitants. Parce qu'en fait, quand je prends le vélo le matin, en fait, c'est vrai que déjà, ce qui est flagrant, c'est qu'on voit les voitures, on ne les voit pas. Il y a les rues, on voit les voitures. Mais déjà, on dirait qu'ils font exprès pour empêcher les gens de prendre la voiture. Déjà, les places, il n'y en a pas beaucoup. Et quand il y en a, c'est très cher parce qu'il faut payer payer un ticket qui est très, très cher. Les rues, elles sont très larges, mais il y a une énorme place pour les vélos. Les vélos, ils prennent toute la place. Il y a des bouchons de vélos. Des fois, je me retrouve, je vais au travail, je me retrouve dans un bouchon de vélos. Et même si ça fait maintenant 17 ans que j'y suis, même ça me fait sourire. Je me dis, je suis dans un bouchon de vélos. Et là, ils ont mis des compteurs, en fait. Ils ont mis des compteurs un peu de partout. Comme je vous dis, la culture danoise, je pense que la culture nordique en général, ça remonte à quand même pas mal de temps. Ils ont toujours pris les vélos et la voiture, du coup, elle a dû s'adapter à la place que le vélo prenait. Alors que là, maintenant, c'est l'inverse. J'ai l'impression qu'on essaie de créer une place au vélo alors que toute la ville a été créée d'une certaine manière et des petites ruelles, il n'y a pas vraiment la place.
Mais qu'est-ce qui fait la différence finalement? Est-ce que c'est les aménagements qui se sont adaptés au vélo ou est-ce que c'est le vélo qui s'est adapté aux aménagements?
J'ai l'impression que toutes les rues au Danemark, même les vieilles, le vieux centre, elles ont été créées par rapport au vélo. Parce que les rues sont très très larges en fait. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut, pas juste pousser à un bâtiment. C'est tout a été créé autour de ça. Donc j'ai l'impression que c'est la culture du vélo, c'est quelque chose qui a été créé depuis longtemps en fait.
Peut-être je vais rebondir à quelque chose. Et ce qui est important, c'est la volonté politique de faire les choses. Ça veut dire que si... À Marseille, tu n'as pas de pistes cyclables comme il faut. Évidemment, ça ne te donne pas envie de prendre le vélo pour avoir un accident, parce qu'ils sont... Si le civisme n'est pas très bon, par exemple, là-bas, en Danemark, il y a des petits feux pour les vélos. J'étais très étonné de voir que tout le monde, là-bas, c'est très respecté, les vélos. Donc ici, les vélos, ils ne sont des fois pas respectés du tout. Donc, le civisme et la volonté politique de dire « j'ai fait des pistes cyclables », et du moment que tu fais les pistes cyclables, au moment qu'arrive le vélo, il faut attendre un temps. Tu as vu ici, pour le Covid, et pour différentes raisons, ils ont créé des pistes cyclables un peu au Prado. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme il n'y a pas de vélo, ils l'ont élevé. Parce qu'ils ne sont pas donné le temps à créer la synergie d'utiliser ces nouveaux couloirs.
Et en effet, c'est vrai que, comme je vous dis, je reviens tous les ans. ces deux dernières années, j'ai eu l'impression qu'il y a eu des changements. Il y a plus de, par exemple, voilà, le Colliotto, je suis passé par le Colliotto, ça m'a vraiment étonné, parce que c'était quand même une rue où je me disais, il y a toujours des voitures, en plus les motos qui vendent et tout, ça prenait beaucoup de place. Alors que là, aujourd'hui, je suis passé, je me suis dit, ok, bah, il s'est passé quelque chose. On dirait que, comme mon père dit, qu'il y a une volonté politique d'essayer d'aller dans ce sens-là, de changer quelque chose. Après, bon, évidemment, il faut laisser du temps, parce que, bon, après, on va se dire, bon, je vais prendre le vélo aussi, ça. Mais ça m'a étonné déjà de voir quelques vélos sur mon chemin. En venant ici, j'ai dû voir 3-4 vélos, alors qu'avant, les vélos, j'en voyais jamais en ville, quoi.
Mais alors, ces nouveaux aménagements, ils sont bons pour le développement du vélo à Marseille? Parce que certains détracteurs aussi disent qu'ils sont mal pensés, ils sont au mauvais endroit, il n'y a pas de piste bidirectionnelle, le revêtement est fait en gravat.
J'ai pas pris le vélo moi-même pour le dire, je ne me suis pas assez déplacé dans Marseille pour le dire. Mais à premier regard, j'ai vu qu'il y avait au moins il y a déjà la place. Parce qu'avant, il y avait le trottoir, il y avait les chiens, les gens, les marchands, et après un vélo par-dessus, c'est pas possible. Déjà, j'ai l'impression qu'il y a la place.
Le problème, c'est que si tu fais une autoroute par morceaux, où tu ne mets pas le pont, personne ne va utiliser l'autoroute. Si tu mets des vélos par morceaux, une piste cyclable, tu mets des tétrés dans les sols, et ce n'est pas un site propre, tu ne vas pas l'utiliser non plus. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour déplacer d'un point A à un point B, il faut une piste cyclable comme il faut, qu'il n'y a pas de danger.
C'est très intéressant. Et je voulais passer sur un autre sujet. Quelque chose qui vous a frappé, et ce que j'ai cru comprendre à partir de nos discussions, c'est aussi la propreté qui est différente à Copenhague. Quelle est la différence entre Marseille et...
En fait, j'ai mis beaucoup d'années pour essayer de comprendre, en fait, c'était quoi la différence. Parce qu'on ne va pas dire la mentalité ou la mentalité, mais ça vient d'où ? Ça vient d'où ? Est-ce que c'est simplement parce qu'on est bien éduqué ou ça vient d'autre part ? Je sais pas, en fait. Je sais qu'il y a beaucoup d'amendes, par exemple, au Danemark. Si jamais on traverse, alors que c'est une toute petite rue et qu'il n'y a personne, mais que c'est rouge, on ne traverse pas. Mais je pensais que c'était mentalité. Mais en fait, on m'a dit après qu'il y avait une amende, une très forte amende. Et le fait que ce soit l'amende et que ça se mélange, après, il n'y a personne qui le fait. Et du coup, si on le fait, on est mal vu. Et du coup, on n'a pas envie de le faire. Au début, je me suis dit, ça va quand même, il faut se relaxer un petit peu, il n'y a personne. Et maintenant, je me surprends des fois, après 17 ans, à avoir ces pensées, si jamais il y a un touriste qui traverse trop vite, je dis, oh quand même, monsieur, je ne vais pas lui dire. Mais j'ai cette pensée et ça me fait rire parce que j'ai changé de point de vue. Et c'est vrai que quelque part, même, ils ont des systèmes, par exemple, le système de numéros. Du système de numéros, il y a des systèmes de numéros partout, de tickets. À la boulangerie, à la porte, de partout. Du coup, en fait, on arrive à la boulangerie, on prend un ticket, et on n'a pas de problème, parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, quand ça va être notre numéro, ça va être à nous. Alors qu'ici, il y a toujours un petit peu, bon, ben, je suis devant, est-ce que c'est qui ? Ouais, mais j'étais avant, monsieur, non, mais attendez. Ça crée des problèmes, alors que là, ça évite tous les problèmes. Il y a un ticket, c'est peut-être un peu carré, mais c'est vrai qu'on arrive, on prend son ticket. Et il n'y a pas de problème, on attend son tour. Et c'est son tour, il n'y a personne qui peut discuter ça, parce que c'est le ticket qui dit ça. Du coup, ça crée un petit peu, j'ai eu l'impression d'être dans un cadre un peu plus... ça a l'air strict quand je le dis, mais c'est vrai que ça m'a fait du bien, finalement. J'avais besoin de que ça soit un peu plus strict, quelque part, parce que c'est vrai que ça fait du bien que les règles soient respectées. Bon, après, des fois, c'est discutable, mais... Mais c'est vrai que ça fait du bien. Je pense que c'est une des choses, la propreté, par exemple. Il y a toujours des gens, il y a quand même des gens qui balancent les trucs dans la rue. Je les vois, on les voit, mais c'est vrai que j'ai l'impression que... Déjà, on a 7 poubelles. Il y a 7 poubelles maintenant. C'est-à-dire à chaque fois qu'il faut trier les déchets, maintenant, il faut qu'on ait 7 poubelles différentes. Et si on ne fait pas ça, on peut se prendre une amende. Très, très grosse amende.
C'est un cadre que je remarque assez sévère et critiquable sur certains aspects. Ouais, est-ce qu'on serait prêt à renoncer à une partie de nos libertés pour,
Je pense que ça s'est fait doucement. On peut pas, je pense que de passer d'une extrême à l'autre, c'est impossible. Non, ça s'est fait doucement. Ça s'est fait lentement.
Mais pour vous, c'est le bon système et le modèle à suivre?
Disons que j'ai l'impression qu'on n'a pas le choix. Si on veut vraiment faire quelque chose pour l'écologie, il faut trier les déchets. C'est vrai que c'est pénible d'avoir cette poubelle, mais bon.
Je pense que là, si pour aller plus loin, je pense que les Danois ou des pays nordiques, ils se font beaucoup d'argent dans l'éducation, mais beaucoup d'argent dans la prévention. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont mettre de l'argent pour préparer les gens à être comme ils souhaitent qu'ils soient. Mais à la fin... Pour un petit pourcentage des gens qui n'ont pas répété le civisme, il y a le PV. Mais ce n'est pas comme ici qu'on annonce un PV, il y a peut-être pas, tu l'as pas. Il y a plein de PV pour les gens qui sont mal garés. Non, pas mal garés, les gens qui sont dans les parkimètres, on passe, on te fait la raquette automatique pour te récupérer dessous. Moi, je pense que ces gens-là, ils devaient passer plutôt pour voir toutes les voitures qui sont dans l'incivisme. Et là, oui, des PV. Parce qu'il y a des handicapés, il y a des aveugles qui ne peuvent pas marcher dans les trottoirs parce qu'il y a un mec qui s'est mis en plein milieu. Et je ne comprends pas comment il faut la raquette très rapide pour faire des, scanner tous les gens qui ont dépassé 2 minutes, 3 minutes dans une, parking, dans une place attitrée, quand ils pourraient faire la même chose pour tous les gens qui sont très, très mal garés. Donc oui, il y a ce qu'on appelle l'amende, c'est important. Mais quand tu as bien éduqué, l'amende, c'est le petit plus pour vraiment les gens qui n'ont pas compris.
Oui, c'est vrai que j'ai l'impression qu'en fait, ils parlent de l'amende, mais j'ai l'impression que, comme tu dis, il n'y a pas beaucoup de gens qui se prennent cette amende parce qu'en fait, ils savent qu'il y a une amende. Du coup, ils se disent, bon, on ne va pas le faire. Parce que c'est, voilà, se garer, si vous êtes au Danemark, vous vous garez dans un endroit passage clouté, c'est amende directe. Ah, ça, c'est même pas. Ça, en 2 minutes, il y a une voiture qui passe, c'est amende, c'est même. Très grosse amende. Donc en fait, y a pas, on ne prend pas le risque.
Quoi. Tolérance zéro. Presque.
Voilà, y a pas, on ne prend pas le risque. En plus, ça va être visible parce qu'il n'y a personne qui le fait. Donc de faire quelque chose vraiment flagrant, ça va être visible, amende directe.
C'est vraiment très intéressant et c'est vraiment un modèle, même une façon de penser différente. Et quand on discutait un peu plus tôt aussi, on parlait du fait que sur le mode de développement des énergies, ils avaient aussi une mentalité différente et ils avaient réussi à mettre en place à grande envergure de l'énergie avec la force du vent.
Ça fait des années et des années. Je suis pas sûr de ça, mais je pense que c'est un des premiers pays. Bon, ils ont des éoliennes de partout. Et là, ils ont créé, dans le nord du Danemark, un des plus gros parcs du monde d'éoliennes. Ça fait partie du décor maintenant. On voit des camions transporter une hélice. Une hélice fait, je sais pas, 15 mètres, 20 mètres. C'est un truc immense. C'est incroyable.
Puisque justement, dans cette émission, on parle aussi d'environnement et de pollution. Est-ce que c'est pas une forme de pollution, une éolienne ?
Après, je suis dans le détail, je suis pas sûr. Mais après, pollution visuelle, vous parlez où, disons que les gens au Danemark, ils savent faire la part des choses. Quand ils voient une éolienne, pour eux, ça représente aussi le fait de ne pas avoir de gaz, de particules.
Pas de nucléaire.
Voilà. Après, ils s'habituent. Après, on les regroupe dans un endroit stratégique. Les éoliennes, par exemple, elles sont pas loin de... les éoliennes au niveau de Copenhague, elles sont juste à côté de l'aéroport. Au niveau de l'aéroport, le niveau visuel, ça ne gêne personne. Donc, il y a un énorme champ là, à cet endroit-là, et qui ne gêne personne, finalement. Et quand on les voit, moi, personnellement, c'est vrai que ce n'est pas joli. Mais ça me fait plaisir de voir ça parce que je sais que c'est un changement qui est positif.
Oui, mais ça peut être aussi pareil, c'est un changement au niveau de la mentalité. Si toi, tu sais qu'il y a une éolienne qui te fournit toute l'énergie, tu ne vas pas la voir comme quelque chose de mauvais.
Exactement.
Tu la vois comme quelque chose de positif parce qu'elle te donne de l'énergie. Si tu vois dans la mer, ici à Marseille, quand ils voulaient mettre dans la digue, là où on voulait mettre des éoliennes, ils vont voir les écologistes contre, l'écologiste est pour. Qui sont les vrais écologistes ? Tu me diras. Les vrais écologistes, c'est celui qui va accepter l'éolienne, que c'est très difficile de mettre en marche. Il faut 10 ans de dossier pour avoir une éolienne. Donc, moi, je dirais qu'il faut que tout soit plus rapide. Il y a des nouvelles technologies qui vont bien. Donc, oui, les choses qui sont... pas beau, par exemple, une centrale nucléaire, oui, c'est beau, mais c'est explose. Est-ce que peut-être c'est beau, parce que peut-être... Oui, mais si ça explose, c'est pas beau du tout. Donc, tu vois, il faut comprendre qu'est-ce que les écologistes pour et contre, c'est pas chez moi, chez les autres.
Au Danemark, je pense pas qu'il y a ce... Enfin, je suis pas sûr qu'il y ait ce problème-là, que ça soit moche. Parce qu'en fait, c'est tellement partie de la... Et comme je vous disais, il les rassemble dans des endroits stratégiques, où c'est évidemment pas là où, par exemple, les gens vont à la plage, ils vont pas mettre une éolienne là. Ils vont mettre une éolienne un peu cachée, dans des champs, dans un endroit où il n'y a pas trop de gens, pour éviter que ça crée la pollution visuelle.
Juste une dernière précision sur ce thème. Est-ce que les éoliennes sont développées de façon massive par les autorités publiques, ou chacun, dans son jardin, peut se mettre sa propre éolienne?
Je ne connais pas trop de gens qui ont leur propre éolienne.
Vous n'avez pas d'éolienne dans votre jardin?
Non, je n'en ai pas une.
Vous savez que pour une éolienne, c'est une structure assez importante. Donc ça peut être qui est... avec les accords de l'État,
c'est très cher,
accords de tout ça, c'est très cher. Donc, par contre, aujourd'hui, en train de se développer les petites éoliennes horizontales qui permettent, par exemple, de charger un poteau, par exemple, qui a une lumière. Il y a des petites éoliennes ou des petites batteries qui permettent d'avoir de la lumière un peu autonome, soit avec des petites éoliennes qui ne les voient pas, qui tournent comme ça, ou soit avec les panneaux solaires. Les deux ensemble, ça te fait de l'autonomie pour certaines lumières dans la montagne, on va dire comme ça.
Super, merci, c'est très intéressant. Et je voudrais une dernière fois, avant qu'on fasse la pause dans trois petites minutes, me tourner vers vous, Jean-Paul, et vers votre compagne Maria, qui est ici. Finalement, quelle est votre impression de revenir ici plusieurs années après? Comment Maria et vous vous sentez?
Comment les voit elle? Oui, c'est
très bien. Disons que là où j'ai vu une différence, vraiment, où j'ai senti que les choses ont changé à Marseille, c'est après quand ils ont fait la MUCEM, il y avait l'année où ils étaient capitale de la culture ou un truc comme ça.
2013.
Ouais, voilà, 2013. J'ai senti qu'il s'est passé quelque chose, qu'ils avaient commencé j'ai vu des changements. Je me suis dit, ah, mais c'était pas comme ça avant. Évidemment, ça change, une ville change. J'ai vraiment senti des changements, et surtout en centre-ville. J'allais pas beaucoup dans le centre-ville parce qu'on habite dans le sud. Mon père était dans le centre-ville. Donc à chaque fois que je passais dans le centre-ville, il y avait un truc nouveau. Donc c'est pour ça que j'ai dit à ma mère aujourd'hui, bon, je ne sais pas par où passer, parce que j'ai peur qu'il y ait des rues que je ne connaisse pas, ou qu'il y ait d'un coup une rue où il y a le tramway, par exemple la Canebière. Donc ça a vraiment beaucoup changé là. C'est positif, j'ai l'impression que c'est positif. Après je ne sais pas exactement ce que ça représente pour les gens qui vivent à Marseille, mais c'est vrai que ça a l'air...
D'accord. Ben, merci beaucoup pour avoir partagé votre point de vue. Je rappelle, ce soir, on est en présence de Monsieur Victor Hugo Spinoza, Jean-Paul, et son fils et sa famille. Et ce soir, nous avons aussi avec nous, qui viennent de rentrer avec nous en direct sur le plateau, Thomas. Thomas, qui est un musicien. Et ce soir, on va avoir une pause un peu particulière, une pause musicale un peu particulière. Puisque on va rester en direct avec toi.
Ben merci beaucoup.
Bonsoir,
pour l'invitation. Bonsoir.
Qu'est-ce que tu vas nous jouer ce soir?
Je vais vous interpréter une de mes compositions qui est disponible sur toutes les plateformes, qui s'appelle We Love.
Comment on peut la retrouver?
En tapant mon nom de scène, donc Alzaïr, A-L espace Z-A-I-R, et We Love, le nom de la musique.
Ben, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à Victor Hugo Spinoza. Merci Jean-Paul d'avoir été avec nous jusqu'à maintenant. Merci Maria. Et bonne écoute de We Love.
Under the surface, we love. To the moonlight, we trust. Imagination, nothing at all. Talk, and we shall reborn.
Quelle chance de découvrir Thomas, c'est impressionnant. Al-Zahir, c'est disponible, il était en direct ce soir, il va revenir pour la dernière chanson à la fin de l'émission, bien sûr. Restez ici pour continuer à le découvrir, vraiment c'est une chance exceptionnelle. Ce soir, nous avons aussi découvert le talent de Jean-Paul. Jean-Paul, qui était notre invité dans la première partie, il a aussi un talent de guitariste qu'il veut nous faire découvrir ce soir. Il est moins pro, mais il est tout aussi connaisseur de l'instrument. Soyez indulgents et découvrez-le en direct. C'était pas une critique, hein.
Feeling like I'm falling in my dreams, and that I'm waking up to find that you're not here. Come to me, I want you by my side. Just take a break and leave it all behind, 'cause I'll be here to tell you all the stories of a man that used to live in lies, but this time. Something keeps on dancing in my heart from the very moment we are part, until I feel your arms around again, 'cause that's the only words I understand. But you'll be here to tell me not to worry, with the power of your eyes. This time I keep on fighting, even if I'm scared to lose you. All these times I've tried to find a reason to run away. Not this time. We might just go on and on forever. Oh, you may be leaving me tonight. Please stay with me, I need you by my side. take a break and leave it all behind. Cause you begin to tell me that you're pretty, and I might just tell you that you're mine. This time, this time, I keep on fighting, even if I'm scared to lose you. All these times, I've tried to find a reason to run away.
Bravo, 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 bravo.
Je tiens à préciser qu'il est arrivé sans avoir rien préparé. Et c'est en ce sens qu'il est impressionnant. Jean-Paul,
bravo,
merci, bravo à tous les deux, Thomas et Jean-Paul. Vraiment, Jean-Paul, c'était vraiment très très beau. Ouais, ouais, ouais. Ne jamais juger, jamais parler sans
jamais
savoir.
Dire je mon professeur.
Je ne savais pas, je ne m'attendais c'est pas. Je ne vous juge pas et j'ai adoré. Je suis fan et j'aimerais savoir comment prendre contact pour un concert à Marseille ou à Copenhague.
Voyez mon père.
D'accord. Donc on peut entrer en non mais sérieusement pour vous retrouver, on peut vous retrouver sur internet.
Oui, non, mais Jean-Paul.dk. Oui, bah sinon, à travers mon père aussi. Ouais,
c'est moi qui vous me payez à moi.
Il n'y a pas de chaîne YouTube ou de.
Ben, disons que si vous cherchez Jean-Paul Espinoza sur Copenhague.
Jean-Paul Espinoza.
Il y a beaucoup de trucs, même sur iTunes et sur Spotify, j'ai 3 albums qui sont. C'est des vieux albums.
D'ailleurs, il a quitté Marseille, il nous a quitté à nous pour Copenhague à cause. Et au grâce pour lui, à cause pour nous, de la musique. Il voulait faire de la musique. Et ici, je te vois, des fois, on n'a pas toutes les chances ici, dans les pays nordiques. Il est ici de partir.
Ça a marché pour moi là-bas.
Félicitations, merci. C'est vraiment c'est impressionnant.
Merci beaucoup.
Merci pour ce moment.
On m'a demandé à vous deux de nous faire une chanson sur la pollution de l'air, sur l'écologie, les calanques, quelque chose de joli.
Un peu plus tard. On a encore un programme chargé ce soir, parce que je le disais un peu plus tôt, nous avons avec nous le super-héros caché qui a créé le groupe de réflexion Écoforum.
D'ailleurs, désolé d'être coupé l'élan. Je voulais dire quand même à notre Florence qui a beaucoup de temps. Combien de temps t'es resté? 2 ans et demi? 3 ans et demi, il est arrivé un jour, il passait par là, on l'a pris là, il a commencé à faire des émissions. Et après, il était la vedette d'ici, il a beaucoup travaillé, je te remercie.
Il est toujours.
Parce que Écoforum existe grâce à des gens comme toi. Normalement, ça dure 2 ans, après on se fatigue. Donc j'espère que tu dépasseras les 2 ans d'activité.
J'espère aussi.
Bon, fais-toi plaisir, continue.
Non, mais justement, vous êtes le fondateur, créateur d'Écoforum. On en a parlé un peu plus tôt, c'était l'opportunité de revenir aussi sur cette émission de radio, sur le sens que vous y donniez. Mais vous ne nous avez pas encore parlé de votre grande annonce d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous étiez à une conférence de presse. Dites-nous en plus. Qu'est-ce qui s'est passé
en deux mots, on a fait une conférence de presse qui avait marché parce qu'il demande, je pense, qu'il va avoir un article sur la Provence, j'espère, sur la Marseillaise et sur, comment ça s'appelle, Med Marseille, je ne sais pas. Bon, donc il va avoir 3 articles et aujourd'hui, c'était très simple. On s'est mis d'accord avec 5 élus de dire, voilà, on s'est engagé. Les écologistes se sont engagés à donner 10% de leur indemnité si on était élu. Ça s'appelle une promesse. Il y a des promesses sans lendemain. Il y a des promesses, quand on est correct, on tient ces promesses. Donc nous, les 5 premiers élus qui ont été là, on a tenu nos promesses et on a fait une conférence de presse pour dire oui ou non, on va donner. Moi-même, je vais donner à Amnesty International et au Resto du Cœur, parce que ça mettait un cœur de donner des sous à eux. D'autres, ils ont choisi la lutte animale, d'autres, ils ont choisi la lutte de la fin de vie, ou sea, les associations. Donc, chaque élu choisit son association.
10% de vos indemnités, c'est ce que rien. Vous appelez l'éluton. Vous allez donner 10%.
Comme le téléton, on a dit, on va l'appeler éluton.
Vous allez donner 10% de vos indemnités à Amnesty International et au Resto du Cœur.
Oui.
Pourquoi Amnesty International ?
Amnesty International, parce que nous, mon fils, ma femme, nous, on est là, nous tous, on est là parce que quelqu'un nous a aidés à venir vers la France. Donc, c'est le groupe d'Amnesty International qui nous a permis d'arriver en France, qui nous a aidés, qui nous a soutenus et qui nous a accompagnés. D'ailleurs, que c'est ton travail, je pense, avec l'OFPRA, ils nous ont donné le statut de réfugiés politiques. Et c'est pour cette raison que c'est une façon de payer cette dette. Amnesty, en général, ne reçoit pas de dons politiques, évidemment, mais moi, c'est un don personnel lié à une action, à quelque chose que je dois payer. Et le Resto du Cœur, parce que Coluche m'a toujours fasciné, cet homme qui a commencé à râler contre les supermarchés, à râler contre les gens qui faisaient le gaspillage alimentaire, et en même temps qu'il y avait des gens qui crevaient la dalle à côté, qui n'arrivaient pas à manger. Donc évidemment, cet homme-là, il a créé le Resto du Cœur, et au nom de Coluche, justement, j'aimerais soutenir justement ces repas, et plus la population s'appauvrit, plus on a besoin de plus en plus de Resto du Cœur. Et personne ne peut dire que je n'ai pas besoin d'un Resto du Cœur parce que tu ne sais pas comment la vie va tourner. Donc, c'est pour ça que le Resto du Cœur, c'est mon choix de cœur. Et Amnesty International, c'est mon choix, on dirait, de reconnaissance. Que c'est deux choses parce qu'eux, ils luttent contre les injustices. Et partout que je serai dans le monde, je lutterai contre les injustices qui viennent de la droite, de la gauche, peu importe.
C'est super impressionnant.
C'est pour ça que je suis anti-extrême droite.
Je relève juste un détail. J'ai remarqué que les deux associations que vous avez choisies, si vous me le permettez, c'était des très grosses entités, des très grosses associations. Et pourquoi, sachant qu'à Marseille, il y a un tissu associatif impressionnant, pourquoi des si grosses entités et pourquoi pas
parce que je l'ai voulu, tout simplement, parce que je pense que les élus en général, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner à une association locale, par exemple, le cinquième élu, Alexandre, il a décidé de donner à une association Jardin Partagé à Marseille. Et une autre, c'est l'association Femme Vie à Marseille. Donc, ils sont trois élus, ils sont donnés qu'à Marseille. Moi, je voulais donner pour rapport à ce qui m'est dicté mon choix.
Et c'est personnel. Tout à votre honneur. Et merci,
c'est pour ça que j'ai choisi des grandes associations.
Pour cette initiative. Je remarque.
Mais ça a été difficile. Hein. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un qui a voulu donner à Greenpeace, et Greenpeace a dit non, nous on ne reçoit pas des dons de politique. Okay. Amnesty, il a dit non, sauf pour moi, parce qu'il y avait une vécu. Mais ils ne veulent pas non plus des dons de politique.
Ah, c'est intéressant aussi comme concept. Mais finalement, vous êtes seulement quatre ou cinq. Vous êtes cinq à avoir lancé cette initiative. Finalement, l'objectif, c'est que tous les élus renoncent à 10% de leur indemnité pour les donner à des associations ?
Non, l'objectif, c'est l'inverse. L'objectif, c'est qu'aujourd'hui, il y a tous les élus écologistes de Debout Marseille se sont engagés par une charte à donner 10% de ces indemnités. Donc maintenant, il faut passer des paroles aux actes. Donc que tous les élus qui sont certains à 4 000, 5 000, 6 000 euros par mois, écoutez, si on les prend 500 euros, ce n'est pas grand-chose, c'est 5 000 euros. Pour moi, c'est beaucoup, mais pour d'autres, non. Donc, je tiens qu'eux, ils tiennent parole. Parce qu'aujourd'hui, la population ne veut plus des gens qui disent des choses qu'ils ne les font plus. Parce que les gens sont marres des promesses sans l'endemain. Donc, aujourd'hui, oui, je souhaite qu'il y ait le maximum d'élus. J'ai calculé que mon don serait 7200 euros en 6 ans.
Seulement votre don ?
Mon don. S'il y a 100 personnes, ça fait 100 personnes qui donnent plus ou moins, ça fait 1 million d'euros pour les associations. S'il y a tous les élus qui se mettent en France, on est à presque 10-20 millions d'euros. Ça peut aller très vite. Et moi, je ne demandais pas à donner à une association quelconque. Je lui ai dit, donnez à l'association de votre choix. Mais j'ai demandé à l'association Anticorps, qui c'est Anticorruption, de contrôler que pas n'importe qui dit qu'il donne, il ne donne pas. Parce que ça, c'est de l'escroquerie. Voilà.
C'est très intéressant. Et du coup, comment si des élus vous écoutent ce soir, comment ils peuvent changer les choses.
Très simple, ils vont dans les sites, il y a
quel est petite, ce site
le site asso.ecoforum.fr, ils rentrent, on a change.org aussi, ils rentrent dedans, ils remplissent une petite fiche, tac, 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 ils disent qu'ils vont donner 10%. S'ils donnent déjà un parti politique, parce que des fois, ils donnent 5% à un parti politique, ils peuvent donner la différence. Mais moi, je veux qu'à la fin, quand il y a un justificatif, parce qu'en plus de ce que vous donnez, 60% pour cet élu, c'est déductible d'impôt. Donc il faut bien comprendre qu'il donne non plus, quand tu donnes 100 euros, au fond, tu donnes 34. Donc tu ne donnes pas non plus tout ça. Donc ce n'est pas une grande chose, c'est une petite chose, mais multiplier, ça fait beaucoup de sous pour les associations marseillaises. En général, les élus marseillais donnent aux associations marseillaises.
D'accord. Et donc ça, ça commence maintenant. Et les citoyens qui vous écoutent peuvent aussi s'inscrire sur change.org.
Ils peuvent s'inscrire sur change.org pour dire, voilà, envoyer à l'élu, par exemple à Paris, il envoie à la municipalité de Paris, allez, venez, donnez-nous des sous, parce que les associations, aujourd'hui, après le coronavirus, il n'y a plus de sous, ils ont pas mal de problèmes, donc c'est le moment de donner de l'argent personnel. Parce qu'il y a celui qui dit, je donne de l'argent au peuple. Oui, c'est facile de donner de l'argent au peuple quand c'est l'argent du peuple. Ça veut dire que si je donne une subvention, c'est l'argent qui vous appartient, donc je vous donne l'argent. Là, il ne s'agit pas d'une subvention, il s'agit de mon argent que je donne de façon personnelle. Donc c'est l'élu lui-même qu'on prend une partie de lui.
Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, Jean-Paul ?
Geste très solidaire et je trouve que oui, si ça peut avoir un gros impact sur l'écologie et sur les associations, pardon. C'est un petit don pour certains, mais comme il dit mon père, après quand on ajoute, ça fait beaucoup beaucoup d'argent finalement.
Je ne demanderai pas, par exemple, aider un élu qui a 1 000 euros par mois et qui n'arrive pas à arrondir ses fins de mois. Je lui demande plutôt pas participer parce que lui, déjà, il arrive à peine à lutter. Mais c'est certain qu'ils sont entre 3 000 et 6 000 euros qu'ils ne donnent pas. Et je trouve vraiment incroyable et je ferai le nécessaire pour le faire savoir. Parce que ce n'est pas normal qu'il soit comme ça.
On en prend compte. Donc vous aussi, si vous nous écoutez ce soir et que vous connaissez un adjoint, un élu...
Toi, tu connais déjà un qui était invité la semaine dernière ici.
La semaine dernière, nous avions deux adjoints en direct et j'espère qu'ils entendront cet appel.
Et ces deux adjoints, c'est adjoints au maire, sont à peu près entre 4 000 euros, 5 000 euros. Donc s'ils donnent 400 euros, ce n'est pas grand-chose, il reste 3 600. Voilà.
C'est leur choix, après tout.
Oui, mais c'est toujours leur choix. Mais je suis là aussi pour les rappeler. Allez, je parle aux élus de vous, Marseille, les écologistes se sont engagés ça. Mais les écologistes, les gens de gauche, ils vont suivre aussi, c'est normal.
Ça paraît normal et j'espère que ça sera suivi, puisque c'est une bonne nouvelle pour toutes les associations qui nous écoutent.
Au pire, si ça ne marche pas, je suis toujours dans le registre lanceur d'alerte des casse-pieds durables, donc je continue ma route. Au pire, ça fera... On a calculé, ça fait 50 000 euros
votre
à 5 élus.
Justement, j'en profite pour rebondir et pour changer de sujet, puisque votre route, elle ne s'arrête pas à ça. Elle ne s'arrête pas à votre engagement d'élu du 15-16e arrondissement pour donner 10% de vos indemnités aux associations. C'est une lutte constante, continue depuis plus de 20 ans avec Ecoforum, avec L'Air et Moi. Justement, L'Air et Moi, on n'en a pas parlé. Qu'est-ce que c'est cette association, L'Air et Moi ? Est-ce qu'elle continue d'exister ?
Voilà, en deux mots, si vous voulez, j'ai dit pour faire pression avec les politiques, il y a plusieurs façons. Soit on fait pression avec les politiques et pas les médias, c'est le cas que je fais beaucoup des articles de presse, et que je fais aujourd'hui, c'est le lobbying, c'est faire pression. Après, vous avez une autre façon de faire, mais les élus changent tous les 5 ans, donc il faut recommencer avec les élus. Par contre, si vous travaillez avec les enfants, avec les collèges, avec les lycées, c'est quelque chose qui va servir dans 10 ans. Ça s'appelle être visionnaire. Donc, L'Air et Moi, c'est ça. On a fait le maximum pour travailler dans les écoles d'une façon très cool et très adaptée à l'école avec la pédagogie. Et on est actuellement à 500 000 d'enfants sensibilisés dans l'Europe et aussi dans les parties d'Afrique. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, une petite association marseillaise, on est arrivé à envoyer des supports pédagogiques, des diaporamas, des vidéos, qui aujourd'hui sont traduits déjà en 14 langues. Donc pour moi, ça, tout ça, ce que j'ai fait, je suis président bénévole, Donc je ne gagne pas un centime de ça, mais j'ai besoin que l'équipe qui travaille sur ça, il gagne de l'argent, donc il faut trouver de l'argent. Malheureusement, quand la gauche était au pouvoir, il a donné 0 euro. Par contre, la droite, ce n'est pas mon bord politique, le conseil régional, le conseil départemental, oui, ils nous ont donné des sous pour créer les Rimois collèges, ils nous ont donné des sous pour créer les Rimois lycées. Je parle, c'est pourquoi je dis ça, parce que tu t'attends de l'aide des gens qui sont les plus proches à nous, les gens de gauche, et c'est drôle que je demandais depuis longtemps à la région, j'ai demandé des sous à l'époque, il avait les verts, ils ne m'ont pas donné des sous. Donc je trouve que c'est quand même triste. Et c'est pour ça que je le signale. Et avec les Rémois, on est en train de sensibiliser les enfants, parce qu'un enfant sensibilisé, c'est la terre qui va être sauvée, c'est des choses qui sont en train de changer.
Et donc vous sensibilisez non seulement à l'air, mais aussi à l'environnement au sens large et au sens tellement large que vous avez même fait une présentation à destination des enfants intitulée « Le virus et moi » et qui traite du Covid-19 et de son impact pour les enfants. Est-ce que vous voulez nous en dire plus ?
Oui, en deux mots, vous voyez, l'air et moi, je l'appelais l'air et moi, très égoïste parce que c'est l'enfant qui respire l'air, mais les virus, je l'appelais les virus et nous. Pourquoi nous ? Parce que c'est nous tous ensemble. Quand j'ai travaillé sur l'eau, c'est l'eau et nous. La nature et nous, parce qu'un enfant, il ne va pas seul à la nature, il va avec les parents. Donc, il appelait nous. Et là, c'est les virus et nous. Et je dis, j'ai des temps à passer, parce que ma femme ne m'a jamais vu tant dans la maison. J'étais tous les jours confiné. Donc, comme j'étais confiné, j'ai dit, je vais me confiner de façon jolie, je vais travailler pour un projet. Donc, on a passé tous les jours avec l'ARS, avec Atmosud, avec des experts de Paris, tout ça, à mettre en place tout ça, surtout qu'il y avait plein de contradictions. Je suis contre le vaccin, je suis pour les vaccins. Tout le monde me cassait les pieds, mais vous ne pouvez pas imaginer. Et on a fait, et aujourd'hui, c'est des diaporamas livres, il s'appelle « Les virus et nous ». Il est traduit en anglais, il est traduit déjà en arabe, il est traduit en italien. Donc, on a déjà traduit en plusieurs langues. Et l'objectif, c'est quoi ? C'est faire un diaporama pour tranquilliser les enfants qui passent beaucoup de temps avec ces coronavirus. Mais je ne l'ai pas appelé coronavirus chez nous parce qu'il va venir de nouveaux virus qui s'appellera clou-clou les virus. Et cet virus, c'est toujours les virus. Donc je fais ça, je suis assez content. Et là, demain, justement, j'ai une réunion d'urgence à la mairie parce que le virus revient à Marseille un petit peu. Donc je viens pour parler en tant qu'élu adjoint à la santé. Je dois venir à 4 heures à une réunion avec la préfecture, tout ça, pour rapport à la.
Qu'est-ce qui va se jouer pendant cette journée intéressante ?
J'imagine que c'est la jeune au maire, que je connais très bien, que c'est Christine Juste qui est adjointe au maire à la santé. Il convoque tous les gens qui sont adjoints pour parler entre nous, pour décider ensemble quelle va être la façon qu'on va travailler sur cette question-là. Comme j'ai une certaine expérience, grâce à avoir travaillé avec beaucoup de médecins, toute ma vie, j'ai travaillé avec des médecins. Ça, je suis expert de beaucoup de choses, mais dès que je touche mon ignorance, j'ai un expert qui va m'aider. Donc, demain, c'est qu'on va discuter la situation sur Marseille. Est-ce qu'il y a une possibilité de deuxième vague et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les prévenir ?
Donc, vous jouez, mais j'ai compris que aussi dans cette discussion, demain, vous allez avoir un rôle pour soutenir le rôle de l'éducation et de la prévention dans la diffusion du virus.
Voilà, mais comme je connais un peu plus que ça, si vous voulez, il y a les casquettes. Si je me mets la casquette éco-forum, c'est pour casser les pieds aux gens qui bougent. Ça, c'est des lobbying. Si je me mets la casquette élu, je suis là pour apporter quelque chose ensemble pour trouver des solutions. Donc, c'est plus cool. Si c'est l'éducation, c'est encore plus cool. Ça veut dire qu'à l'enfant, on n'a pas besoin de le conscientiser de rien. On apprend des petites choses et on construit normalement avec eux les choses.
Est-ce que ça vous arrive de porter plusieurs casquettes en même temps ?
En même temps, c'est difficile, mais des fois, ça m'arrive dans une conférence et que commencer pour une casquette. Par exemple, des fois, j'ai parlé de l'élément et tout à coup, il y a plein de questions. J'étais devant 120 infirmiers qui posaient plein de questions, mais la casquette, l'élément ou la casquette Atmo Sud, il restait avec une certaine limite. Je disais, là, je vais vous parler en tant que personne. Je répondais en tant que moi-même, mais j'ai donné bien la différence qui parle. Ce n'est pas parler dans une faculté, parler devant des enfants, parler à l'inspection académique, ce n'est pas la même chose.
D'accord, c'est très intéressant. Et est-ce que vous avez quelque chose, est-ce que vous souhaitez parler de nous parler de quelque chose en particulier ce soir?
Peut-être lancer un appel. Peut-être même mon fils il peut compléter. Et aujourd'hui, on passe des années qui ont bien des municipalités de droite. Et aujourd'hui, il y a eu l'occasion de passer à une nouvelle majorité de gauche, mais dans la réalité, que c'est une majorité qui a été parce que la droite était divisée. Mais cette majorité, on a une opportunité. On a créé un espoir. Et là, la municipalité n'a pas le droit de trahir cet espoir. Pour ne pas trahir cet espoir, il faut de la compétence, il faut de la constance, et il faut faire avec tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est aussi avec la droite, c'est aussi avec les centres, parce que la Marseille, c'est à tous. Donc il faut s'entendre bien avec la métropole, parce qu'il y a les sous aussi, il faut s'entendre avec la région pour pouvoir faire quelque chose. Donc je dirais aux nouveaux élus, il faut changer les choses, oui, rapidement, mais vous n'avez pas le droit, on peut dire, de casser cet espoir. Si vous cassez l'espoir, c'est le seul qui reste, l'écologie. Et si on massacre cet espoir par des gens incompétents ou par des gens qui font les choses trop vite, et vous allez massacrer le seul espoir qu'on a, c'est l'écologie, pour protéger tout ça. Donc s'il y a quelque chose à dire à Michel Rouvirola, que c'est une amie que je connais depuis des années, et que c'est une amie, c'est quelqu'un de... Le problème, c'est qu'il y a des fois un maire, il peut être piloté par des gens, et des fois le maire, il ne gouverne plus, et donc ça, je ne veux pas. J'ai confiance en Michel Rouvirola, oui, mais je n'ai pas confiance en tous les gens qui vont piloter, quand je dis piloter, pas aider, parce qu'il y a beaucoup... Le côté positif, qu'il y a beaucoup de élus qui sont nés de la base. Il y a beaucoup d'élus qui sont des militants. Il y a beaucoup d'élus qui ne sont pas, bon, sont pas les plus hauts, mais sont des élus qui sont là. Et j'ai tout à fait confiance à cette nouvelle énergie qui arrive pour que les choses changent. Je serai là pour apporter, mais je serai là en tant que gouvernement aussi pour casser les pieds pour certains dossiers. Il y a des milliers de dossiers, les piscines à Marseille, il y a 8 piscines à Marseille qui ne marchent plus, donc, et surtout dans les quartiers nord. Donc il y a plein de dossiers, la pollution de l'air, ça coûte 100 milliards d'euros, imagine-toi que tu peux réduire 90 milliards pour les mettre en marche et faire quelque chose. La France est en train de payer un PV, donc il y a plein de choses, et il faut voir d'une façon... Ensemble, je pense que c'est la musique maintenant pour la fin.
Justement, je voulais juste rebondir sur un sujet d'actualité avant de terminer l'émission. L'actualité, ce qui a été annoncé ces derniers jours, c'est l'été marseillais. Les nouveaux élus se sont mobilisés pour l'ouverture des parcs jusqu'à 22h, des nocturnes dans les musées, l'ouverture de seulement 4 piscines municipales de 10h à 20h30 pendant l'été. C'est un bon signe ? C'est un bon signal. Ça,
toute chose qui va dans le bon sens, c'est un bon signe. Mais commencer pour dire des choses qui sont destinées, même demain, dans la réunion de demain, peut-être les piscines vont être fermées, peut-être, je ne sais pas ce qui va passer. Je pense qu'il faut d'autres types de... Il faut bien se structurer, il faut bien se concerter. La réunion de demain, c'est une bonne réunion parce qu'on se concerte, on parle ensemble et on voit les compétences et on décide ensemble. Mais s'il y a des super-héros qui croient qu'ils vont tout décider, moi, ce que j'ai peur, de beaucoup d'élus qui croient tout savoir, ils vont, eux, gouverner parce que c'est le grand-papa qui croit tout savoir. Et ce papa, il dirige des choses, il sait bien souvent, il ne se rend pas compte qu'il est très ignorant, très incompétent. Ça veut dire qu'un bon, une certaine modestie, on peut connaître beaucoup de choses, mais il faut surtout savoir que plus on connaît, plus on se rend compte qu'on est ignorant. Et c'est là la technique, c'est beaucoup de politiques croient tout savoir, ils font beaucoup de choses mal parce qu'ils ne sont pas la peine de parler avec les autres. Moi, la première chose que je commence, et dans les pays nordiques aussi, on commence à parler avec ses opposants. Ça veut dire que tu pollues, par exemple, avec les tomates, avec l'eau en Espagne, et je parle avec ceux qui polluent en première, pour comprendre pourquoi les faits, comprendre. Je discute avec 30 personnes et après, je me fais mon avis. Mais si tant qu'on n'a pas fait ça, si on, tant qu'on n'a pas fait des retours d'expérience des pays comme Danemark ou ailleurs, on va faire toujours mal.
Alors on va rester très vigilant. On reste vigilant pour regarder de près et scruter avec Victor Hugo Espinoza et Ecoforum la nouvelle municipalité, et l'équipe municipale n'a qu'à bien se tenir. J'espère que aussi Jean-Paul est d'accord avec ce que je suis en train de dire. Merci, je profite, l'émission va bientôt se terminer, je profite pour vous remercier, merci beaucoup à Thomas Alzaïr, merci à Jean-Paul Espinoza, merci à Victor Hugo Espinoza, merci à Maria et à ses enfants et à leur grand-mère. Je suis très reconnaissant et très honoré d'avoir été là avec vous aujourd'hui. Et avant de se quitter, je vous laisse la chance d'écouter une dernière fois Alzaïr, si je ne me trompe pas.
C'est un petit classique de Radiohead, Creep, du coup.
Merci beaucoup, merci, bonne écoute et à bientôt sur Ecoforum.
You were here before, I can't look you in the eyes. You're just like an angel. Your skin makes me cry, and it flows like a feather in a beautiful world. I wish you were spatial. You're so fucking spatial. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell I'm doing here? I don't belong here. Care if it hurts. I just wanna have control. I want a perfect body and your perfect soul. I want to have you wherever you are. So very spatial. I swear you are spatial. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell I'm doing here? I don't belong here.
À tous. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Merci. Bien.